Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accompagne dans les grands questionnements de ton activité et de ton mode de vie de freelance. Et cette semaine, je vous partage un épisode qui est un peu différent de ce à quoi vous avez l'habitude avec le podcast. On n'est pas dans des questionnements concrets, business, développement de notre activité, notre marketing, etc. Mais plutôt dans la vie d'un indépendant, ou ici d'une indépendante. Et parce que oui, vous l'avez deviné en voyant le titre, on va parler de maternité. C'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter à plusieurs reprises, parfois directement, parfois indirectement, en disant « ce serait intéressant d'eux ». Et j'ai l'impression que c'est effectivement un grand questionnement pour beaucoup de femmes indépendantes qui se demandent « est-ce que je vais pouvoir avoir l'ambition que j'ai si j'ai un enfant ? Est-ce que je vais pouvoir continuer de pouvoir concilier mes activités en étant maman ?» etc., etc. Et du coup, j'ai invité Louise à venir en parler avec moi et témoigner de son expérience en tant que maman freelance. Louise, elle est tombée enceinte exactement au moment où elle quitte son poste en agence pour se lancer dans sa nouvelle vie d'indépendante. C'est une situation que j'imagine pourrait causer beaucoup de stress pour une femme, sachant que rien que de se lancer peut représenter déjà une transition importante dans une vie professionnelle. Et du coup, cet échange, il a été vraiment intéressant pour moi aussi, sachant que du coup, en tant qu'homme de 25 ans qui plus est, c'est impossible pour moi de comprendre ce que ressentent les femmes par rapport à ce sujet, peu importe leur âge. Et du coup, bah, forcément, ça m'a vraiment intéressé et j'ai voulu en savoir plus et creuser un petit peu là-dedans. Bref, je te laisse te plonger dans l'épisode, je te souhaite une merveilleuse écoute et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Bonjour Louise.
Bonjour Thomas.
Bienvenue sur le podcast.
Merci.
Je suis ravi de t'avoir pour donner du contexte aux gens qui nous écoutent. On se connaît via Loukoum,
qui est ton collectif que tu as cofondé avec deux autres personnes, dont Leïla, qui est déjà passée avec moi sur le micro. On avait justement parlé de comment vous avez créé ce collectif et toute la structuration qui est derrière, même si juste avant de commencer à enregistrer, on parlait que ça évolue, ce qui est normal et c'est top.
Tout à fait.
Mais du coup, c'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un épisode dédié à ça que vous retrouverez sur le site. Et avec toi, on va parler d'un autre sujet très intéressant, parce que tu es maman.
Tout à fait.
Et on me demande de parler de ce sujet depuis un moment, donc je suis ravi de pouvoir enregistrer avec toi. Mais avant de nous lancer dans le cœur de ce sujet-là, la petite question rituelle de début de podcast. Comment et pourquoi tu es devenue freelance?
Alors, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de partager mon expérience. Alors, j'ai décidé d'être freelance en 2016, on va dire que ça a commencé à germer au moment où mon mari, lui, s'était lancé depuis un an, qui, lui, s'était lancé en tant que consultant Facebook Ads. Et j'avais de plus en plus de demandes de prestations en freelance. À l'époque, j'étais chez Publicis Luxe. Ça se passait pas trop mal, mais c'était une ambiance agence. Ça faisait plusieurs années que j'étais en agence et j'avais une vie...
Une vie d'agence, quoi.
D'agence, qui me convenait pas à tout point de vue. Ouais. Et voilà, ça faisait quand même un moment que je réfléchissais à faire autre chose. Et donc, j'avais des demandes régulièrement pour faire des stratégies, du community.
Des gens de l'extérieur que tu connaissais,
ouais,
et qui te demandaient...
Exactement.
Okay.
Donc, du réseau, des amis d'amis, des anciens collègues, tout ça. Et bah, j'étais amenée à faire des prestats en freelance... un peu sous le manteau, pour rendre des services. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande par rapport à ça.
Ouais.
Notamment dans le secteur luxe, lifestyle, que j'incarnais par mon expérience en agence. Donc voilà, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais j'étais un peu comme tous les freelances en devenir, très inquiète sur le fait d'avoir une stabilité financière, savoir est-ce que ça allait marcher pour moi, est-ce que ça allait me convenir de travailler seule à la maison, enfin toutes ces questions.
Toutes les questions qui reviennent, ouais.
Qui reviennent systématiquement. Donc j'étais en interrogation, mais j'avais quand même la chance d'avoir un mari freelance qui m'encourageait vachement. Dans cette voie-là. Et l'autre raison qui a vraiment motivé mon lancement, c'est que j'avais envie d'être maman. Et paradoxalement, ça a guidé ce choix, puisque avec la vie que j'avais en agence, je n'envisageais pas d'être une maman accomplie et épanouie.
Ah, donc, c'est marrant parce que je pense que la réflexion que certains peuvent avoir en... par rapport au freelancing, c'est « Oh mon Dieu, c'est instable, je peux pas accueillir une famille.
Exactement.
Ou fonder une famille en étant indépendant. » Et toi, c'est l'inverse. Je deviens freelance pour avoir l'espace, du coup.
C'était très contradictoire, mais disons que ça m'a motivée. Je me suis dit que je voulais être une maman assez disponible.
Okay.
Et pouvoir aller chercher ma fille sans devoir m'excuser. Et en fait, j'ai vu beaucoup, beaucoup de situations en agence assez humiliante par rapport à la parentalité. Des papas comme des mamans, bon, surtout des mamans que je trouvais pas heureuses dans leur maternité, parce que avec des horaires d'agence et pour qui partir à 18h,
c'était pas possible, quoi.
Ah, bah, c'était hyper mal vu, alors qu'en fait c'est juste normal, quoi.
Ouais.
Voilà, et c'est vrai que je craignais beaucoup de vivre ça, et je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi de me lancer. Je réfléchissais à ça, et en fait, au moment où je réfléchissais, je suis tombée enceinte. J'étais encore en CDI.
Ok.
Et non, je te dis n'importe quoi. Je suis tombée enceinte alors que j'avais déjà...
Ah, t'avais déjà posé ta dème.
J'avais pas vraiment posé ma dème, mais je l'ai présentée de manière à... Voilà, je veux m'en aller.
Okay.
Ça va se faire en douceur, mais je veux partir, donc
ouais.
Je voulais une rupture de contrat. Et puis, je voulais aussi que ça soit... que ça soit faire pour eux et qu'ils aient le temps de se retourner.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc ça a pris, ça a pris 5 mois, un truc comme ça, à mon départ. Donc ça s'est fait vraiment en douceur. Mais il se trouve que, à peine j'avais annoncé ça, que je suis tombée enceinte.
Comme si c'était genre l'évidence du truc.
Voilà.
Voilà, quoi.
Donc après, bon, on en déduit ce qu'on veut.
Oui. Mais... on voit des signes là où on a envie de
voilà.
Le voir, effectivement.
Mais en tout cas, c'est assez intéressant que ça se soit passé à ce moment-là. Je me mariais 3 mois après. 2 mois après être tombée enceinte, donc on va dire que c'était pas le meilleur moment, mais dans les faits, enfin, on s'imagine pas que c'est forcément le meilleur moment, au moment où tu te lances en free, au moment où tu vas te marier, que voilà, paf, ça arrive. Mais bon, la vie est faite, comme ça.
Voilà.
Et au final, c'était vachement bien parce que, alors évidemment, il y a plein de gens qui m'ont dit, oh là là,
t'es pas stressé,
puis tu devrais rester chez Publicis, ouais. Comme ça, t'as un congé mat.
Tu leur répondais quoi à cette époque-là, du coup? Parce qu'effectivement, on pourrait se dire assez séduisant, j'ai le congé mat, je quitte après, enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses qui se passaient dans ta tête. Tu leur répondais quoi, du coup?
Je leur répondais que oui, j'étais inquiète, mais finalement, pas tant que ça, puisqu'on a quand même la chance d'être en France.
Ouais.
Que quand on a à négocier une rupture conventionnelle, on a le droit au chômage, qu'on a le droit à un congé, quand on a été salarié suffisamment longtemps, on a le droit à un congé mat de salarié. Mmh. J'avais un mari qui travaillait, j'avais pas
d'inquiétude. Tu savais que vraiment, il y avait toujours des solutions, ouais, même si...
Il y a toujours des solutions. Et finalement, j'ai vécu un début de grossesse hyper détente, quoi. Enfin, j'ai jamais été aussi détendue en agence, parce que je pense que ça aurait pu être vraiment compliqué, parce que c'est les 3 premiers mois, tu peux quand même pas dire à ton employeur que t'es enceinte. Mmh. En plus, là, j'étais en train de démissionner, donc c'était quand même un peu touchy, tu vois. Mais au final, moi, j'étais super zen parce que je savais que j'allais partir, ouais. Et puis que...
C'était la question que j'allais poser. Est-ce que tu penses que le fait que tu savais que tu t'embarquais dans cette aventure d'indépendance qui peut-être te parlait plus au final, c'est ça jouait sur le fait que c'était plus chill pour toi?
Oui, et puis finalement, comme une grossesse, ça dure 9 mois, j'avais une échéance par rapport au développement du business, c'est-à-dire que je me suis lancée au mois d'août,
ouais.
Et j'étais censée accoucher le 17 janvier. Donc, entre le mois d'août et le mois de décembre, il fallait quand même y aller, quoi. et finalement, c'est super positif parce que ça m'a obligée à me mettre un peu, à mettre un peu les bouchées doubles,
ouais.
Pour développer une clientèle en quelques mois. Chose que j'aurais pas forcément faite.
Si t'avais pas d'échéance.
Non, parce que j'avais droit au chômage,
ouais.
J'aurais pu me lancer tranquillement, développer mon truc, comme plein de gens peuvent faire, hein, et ils ont raison. Hein. Mais moi, finalement, je me disais que si je développais pas quelque chose, ça risquait d'être compliqué, parce qu'après, j'ai 3 mois d'arrêt, puis quand on part en congé mat, et quand on est freelance, si on n'a pas un peu développé son activité, on peut vite être out, quoi.
J'adore ce que tu racontes. Ouais. En ce moment, je suis à fond dans des sujets d'état d'esprit, de mindset, pas mal en lien avec le coaching aussi. Je suis en train de lire le livre de Tony Robbins là sur c'est sur la PNL. Enfin bref, comment tu circuites ton cerveau et tes croyances. C'est hyper intéressant. Et du coup, ce que tu me dis là, je vois. Il y a une phrase qui sonne un peu en boucle dans ma tête en ce moment, c'est que c'est pas les circonstances de ta vie qui définissent la qualité ou non, mais c'est les histoires que tu te racontes par rapport à ça. Et là, je vois dans ce que tu me racontes, ce qui est hyper intéressant, c'est que effectivement, t'as une échéance de août à décembre ou de août à janvier. Et en voyant cette échéance, elle aurait soit pu te paralyser en te disant oh mon Dieu, j'ai pas le temps, il faut absolument que ça fonctionne, etc. Gros stress, paralysie. Mais toi, tu l'as plutôt pris dans l'autre sens en te disant ok, c'est génial, j'ai 6 mois. Mets-toi-y à fond, et du coup c'est à ton service de voir ça, et je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis ça aurait pu être vraiment facile et normal entre guillemets que tu vois ça de l'autre manière et que ça soit une source de stress et d'inquiétude et que ça te paralyse et que t'avances pas,
ouais.
Et personne n'aurait dit ah t'es débile de penser ça aurait été normal,
oui, bien sûr, et puis en plus tout le monde avait tendance à me dire vas-y mollo, quand même, c'est pas parce que tu te lances que...
Mais je trouve ça génial que tu aies vu le truc dans l'autre angle et que du coup ça t'a servi, j'imagine.
Ça a été un moteur en fait, et puis en plus j'avais un deuxième paramètre qui peut paraître anecdotique, mais quand t'es enceinte ça se voit au bout d'un moment, et j'avais aussi la problématique de me lancer dans des projets un peu ambitieux sans que ça soit trop voyant. Parce que les gens flippent quand même, hein. Quand ils te voient arriver avec un gros ventre, ils se disent elle peut accoucher, ou elle peut me claquer dans les doigts parce que elle va pas être bien. Enfin,
c'est intéressant. Tu le ressens vraiment, genre tu rencontrais des clients potentiels, c'est ça?
Ouais.
Tu ressens vraiment ce truc?
Alors je l'ai ressenti, ouais. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient, parce que j'ai vraiment travaillé, j'ai accouché le 17 décembre, j'ai travaillé jusqu'au 30 novembre.
Ok.
Donc,
ah ouais,
tu vois,
jusqu'au dernier moment.
J'étais
quoi.
Vraiment jusqu'au dernier moment, mais parce que j'étais bien.
Ouais, bah ouais.
Voilà, j'étais
oui,
bien.
Forcément, c'était une ouais. envie, j'imagine.
Mais c'est vrai que je me souviens avoir assuré des formations réseaux sociaux où j'arrivais avec un gros ventre et ils s'y attendaient pas. Et ils étaient un peu. Ouais. Ben, ils étaient un petit peu décontenancés. Ils se disaient, bah, ça va, vous voulez pas vous asseoir. Enfin, ils étaient ouais. hyper aux petits soins. Alors qu'en fait, j'étais pas handicapée, quoi. Mais il y a quand même cette notion d'insécurité.
Ah, c'est intéressant. Parce que je me dis, tu vois, en tant qu'homme, en plus, je peux pas vraiment comprendre ce que ça fait. Et en plus, je t'en parlais au début. En ce moment, je travaille sur un projet avec une cliente sur des sous-vêtements menstruels. Mmh. Du coup, je me retrouve dans plein de situations hyper intéressantes où je peux pas comprendre ce que ça fait. Je peux pas comprendre ce que ça fait pour une femme d'avoir ses règles. Mmh. Et du coup, je suis tout le temps en train, genre, je me rends compte que j'ai des réflexions où je pose des questions que jamais j'aurais posées, tu vois. Du ouais. coup, c'est une bonne opportunité là de faire le même exercice. Parce que je projette en me disant, une femme qui va en entretien d'embauche, par exemple, je me dis, mais en fait, c'est horrible pour le recruteur d'avoir ce genre de pensée. Et en même temps, je me dis, j'imagine que c'est tellement ancré que ça vient naturellement, parfois même sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est intéressant aussi de se dire que même les clients en freelance, ils ont ces mêmes pensées de se dire, ah, genre, elle est enceinte, ça se trouve, elle va pas assurer ma mission, quoi.
Ben oui, après, c'est une crainte qui est, je trouve, légitime, hein, parce qu'effectivement, une femme enceinte, du jour au lendemain, elle peut être alitée, elle peut avoir un problème. Donc c'est quand même...
Et puis sa priorité à ce moment-là, ce sera forcément pas du tout la mission.
Et évidemment. Et puis en plus, t'as pas de contrat, t'es pas engagé. Donc je peux comprendre que...
C'est intéressant. Comment tu faisais pour les rassurer, du coup?
Alors, je leur disais pas forcément.
Ok.
Quand c'était donc, la pas stratégie forcément de... visible. Bah, en fait, je considérais que j'avais pas... Quand c'était pas suffisamment avancé, c'était pas nécessaire de le dire, en fait. C'est-à-dire que si j'étais en bonne santé, c'est pas un
pas
critère,
de raison,
en fait. Enfin, j'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça.
C'est clair, donc, je suis entièrement d'accord.
Voilà, mais il est arrivé une mission notamment qui a été un petit peu kamikaze, on va dire, chez TV5 où j'ai fait un live tweet de 25 heures d'affilée.
Wow.
Et en fait,
sans dormir ou
alors on avait une petite salle de repos, mais bon, j'ai dormi peut-être une heure ou deux, quoi.
Ah ouais.
Et voilà, et au moment où on m'a proposé la mission, bon, j'étais enceinte de 5 mois, un truc comme ça, j'étais en très bonne santé, j'étais en très bonne forme, et c'est vrai que pendant l'entretien, ça se voyait pas trop, donc je l'avais pas précisé,
ouais.
Et quand je suis revenue un mois et demi après pour faire le live,
ça se voyait un peu plus.
J'avais mon petit ventre, et c'est vrai que je me souviens de la DIRCOM, de l'équipe marketing de TV5 qui a eu un petit moment de panique, quoi, où ils se sont dit, bon, j'espère que ça va aller, et puis, bon, ils se sont très humainement aussi inquiétés pour moi, parce que 25 heures, c'est quand même pas
bah
rien,
ouais, c'est
quoi.
Clair.
Donc,
après, mais au final, c'est intéressant.
C'était mon choix, mais.
Ce qui est derrière ça, c'est plus une inquiétude humaine que.
Oui, oui, tout à fait. C'était
genre un jugement de, ah, elle pourra pas faire l'émission, quoi.
C'était
c'est plus, est-ce que ça va, mais
oui,
vraiment, quoi.
Exactement. Là, c'était vraiment bienveillant, mais. Je pense que légitimement, ils se sont inquiétés de savoir si je pouvais pas faire un malaise, parce que tu vois, ça leur met, c'est une responsabilité pour eux aussi.
Bien
tu
sûr.
Vois.
Et du coup, toi, dans ta tête, genre sur cette mission particulièrement, parce que j'imagine que tu te disais 25 heures de live tweet, c'est assez intense comme mission. Il se passait quoi dans ta tête par rapport à le fait que tu sois enceinte d'ailleurs?
Je me suis pas trop inquiétée sur ma capacité à le faire. J'avais un peu sous-estimé l'inconfort que ça pouvait me créer. Parce que finalement, 25 heures sans dormir, bon, ça se gère. Encore que vraiment, j'ai pu quand même me reposer. On avait des pauses autant qu'on voulait. C'est plus la rester assise pendant autant de temps.
Et devant un ordi ou un téléphone. Ou...
Voilà. Et ça, pour le coup, avec un petit ventre, ça a été un peu compliqué sur la fin. Mais pour moi, en fait, c'était aussi un peu un challenge. C'est-à-dire que je me disais, ce sera un bon souvenir, je le raconterai à ma fille.
T'étais là avec moi.
Ouais, voilà. Et puis c'était un peu le dernier truc que je me suis autorisée à faire.
Ouais.
Parce qu'après, j'ai été beaucoup plus tranquille. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on propose de ce type de mission. C'était hyper intéressant. C'était une émission sur la francophonie. un live sur 12 pays différents.
Ah ouais.
Enfin, c'était vraiment un dispositif de live vraiment
hyper intéressant.
Et donc, je trouvais que c'était dommage de le refuser parce que j'avais peur de pas assurer, quoi.
Ouais.
Et puis, si je l'ai fait, c'est que j'en étais...
Que t'en étais capable.
J'en étais capable. Donc,
complètement. Voilà.
Après, j'ai dormi, tout s'est bien passé, quoi. Mais,
Trop bien. Je trouve ça cool parce que j'ai l'impression de voir comment ça marche dans ton cerveau, de voir les choses sous l'angle qui va te servir. Enfin, comme ce que je disais sur le mindset avant, c'est un peu mon sujet du moment. Donc,
ouais.
Donc j'observe ça aussi, c'est trop cool. Du coup, donc ça, c'était pendant que t'étais enceinte.
Ouais.
Comment ça se passe parce que j'ai d'autres connaissances qui sont indépendantes aussi, qui sont enceintes. Je sais pas si on dit ça. Bon, en tout cas, j'ai une connaissance qui est enceinte. On va dire plutôt avec une phrase pour une personne. Comment ça se passe le moment où donc t'arrives au 30 novembre, t'arrêtes de travailler, t'as des missions en cours encore ?
J'en ai une, mais vraiment très très légère.
Comment tu gères la transition du coup ?
Alors j'essaie de me souvenir. La seule mission que j'ai gardée, c'était déjà un client slash ami.
Ouais.
Donc c'est quelqu'un en plus qui a deux enfants qui était très compréhensif et bienveillant. On s'est mis d'accord de mettre un peu tout en pause pendant 2 mois. Lui, ça l'a arrangé financièrement.
Okay.
Donc il a repris. En fait, on s'est organisé pour que...
Pour ça, quoi.
Voilà.
C'est
mais
cool.
Mais j'ai décidé de... Pendant un moment, je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer à travailler. Pendant la post-naissance,
ouais.
J'avais pendant un moment l'illusion que c'était possible.
Avec le premier enfant, du coup, on se dit...
Oui,
ouais.
Je me disais, oh, bah, ça dort, c'est bon, j'aurai le temps.
Et finalement,
moi, j'ai écouté les personnes bienveillantes autour de moi et j'ai décidé de tout arrêter.
Donc, est-ce que ça, c'est un conseil que tu donnerais peut-être à des indépendantes qui sont enceintes aujourd'hui ou qui attendent la naissance? Genre de vraiment avoir un temps de pause et dire mais arrête tes missions ou trouve une manière de faire une transition.
Je pense que c'est vraiment un choix personnel qu'il faut bien réfléchir et bien mûrir, mais oui, je trouve que pour son équilibre et puis son repos, son bien-être, son
ouais.
Pour son enfant aussi, c'est quand même mieux parce
mais,
que c'est.
Mais tu sens que c'est possible pour quelqu'un pour qui c'est vraiment important de continuer de le faire? Ou genre c'est vraiment difficile quand même.
Je pense que c'est possible, mais c'est pas c'est se rajouter un petit peu des bâtons dans les roues quoi. Parce
ouais.
Que c'est une naissance, c'est quand même c'est magique, mais c'est quand même un gros bouleversement
ouais, bah
et,
ouais, j'imagine.
Et physique et psychologique. Moi je trouve ça difficile de faire les deux en même temps quoi. Après, tu peux décider d'avoir un congé assez court.
Ouais, bien sûr. Chacun choisit aussi comment il a envie de gérer le truc. Mais
voilà.
C'est pour ça que je voulais demander si c'était physiquement possible, entre guillemets, encore une fois, de la part d'un petit homme naïf qui ne sait pas et qui ne peut pas savoir. C'est pour ça que j'ai demandé physiquement possible ou pas.
Je pense pas que ça soit impossible.
Okay.
Mais c'est vraiment comment toi tu gères.
Ouais.
Comment t'es aidé aussi, ça joue énormément.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
si t'as la grand-mère ou le grand-père, si t'as des aides autour de toi, ça change tout. C'est-à-dire que tu peux éventuellement te prendre une journée pour travailler un peu. Je pense que vraiment c'est un choix personnel. Et ça dépend de comment tu gères, ça dépend de ton niveau de fatigue, ça dépend de l'enfant aussi parce
ouais.
que t'as des enfants qui pioncent toute la journée.
Ouais. Et... Ça c'est la part variable que tu peux pas vraiment.
Tu peux pas prévoir. Mais comme tu peux pas prévoir, moi j'ai préféré couper.
Ok. Et du coup la partie qui vient juste après, c'est-à-dire là on a parlé un peu de l'avant,
mm-hmm.
de la phase de transition où t'avais un client que t'as mis en stop. C'est cool d'ailleurs que t'avais cette relation personnelle avec la personne et j'imagine que ça a facilité...
Oui, beaucoup.
Ça a facilité la transition et après du coup, comment c'est à quel moment que tu reprends, comment tu t'es organisé, enfin c'est quoi la suite
alors,
de l'histoire.
La suite, je reprends 4 mois après.
Ok.
Donc j'ai pris 4 mois.
Donc là on est en avril.
Oui.
De cette année
De l'année d'avant.
Ok, avril 2018.
2018.
Ok.
Ouais. Je reprends à mi-temps, dans un premier temps, histoire de...
Ouais, donc tu prenais pas trop de missions
Non, non, non. Puis d'ailleurs, oui, j'en avais pas... C'était assez tranquille. En
ouais.
gros, de avril jusqu'à l'été, ça a été assez tranquille. J'ai pris des missions... Mais oui, j'étais à mi-temps, 4-5e, on va dire.
Ok, 4-5e. Donc tu t'organisais comment? Tu bossais toute la journée
Je bossais toute la journée et je bossais pas le mercredi.
Ok. Et c'était quoi ton organisation concrète? Genre, tu travaillais de chez toi et il y avait ta fille avec toi?
Alors non, ma fille, elle était gardée et chez moi et dans une autre famille, donc en garde partagée. Et les jours où elle était gardée à la maison, j'allais bosser ailleurs. Je bossais en coworking. À l'époque, je bossais à Mutinerie, dans le 19e, avant que ça ferme. Et puis après, j'ai navigué de coworking en coworking. Je faisais des 2-3 journées, ça dépendait des semaines. Et sinon, ça m'arrivait de bosser à la maison. Je faisais un peu moitié-moitié, quoi. Et le mercredi, je ne travaillais pas
du tout,
passer la journée avec elle.
Avec elle, oui.
Et on s'organisait avec mon mari pour faire moitié-moitié, en fait.
Ouais, parce que du coup, l'information qui est intéressante à savoir là, c'est que ton mari est aussi freelance.
Oui.
Du coup, au début, il était freelance déjà à cette époque-là, oui, il s'est lancé avant toi. Au début, comment vous organisez entre vous aussi? Est-ce que lui, il prend une autre journée que le mercredi pour garder ta fille ou...
Alors, non. Disons que le congé maternité, à proprement parler, c'est moi qui assure, puisque moi, j'ai complètement arrêté de travailler.
Ouais.
Et surtout, j'ai un congé maternité.
Oui.
Il n'a pas de congé paternité, donc il doit continuer à gagner de l'argent. Mais le gros avantage, c'est que quand t'as un papa, un jeune père qui est freelance... quand il y a des mauvaises journées, et il y en a au début, il peut rentrer plus tôt.
Ouais. C'est flexible, quoi.
C'est hyper flexible. Donc ça, ça n'a pas de prix, quoi. Donc c'est pour ça que je considère quand même avoir une position privilégiée par rapport à ça, parce que toutes les freelances n'ont pas des maris freelances. Et donc ça rajoute vraiment une facilité, un confort.
Ouais.
Voilà, et puis lui aussi était sur un rythme, il prenait moins de missions à ce moment-là. Les 6 premiers mois, il a été assez
plus présent,
flexible,
quoi.
Oui, et très très présent.
Et du coup, financièrement, j'essaye de rentrer vraiment dans tous les détails que les gens peuvent se poser comme question en écoutant. Financièrement, à cette époque-là où toi t'avais moins de missions, est-ce que t'avais commencé à construire une enveloppe entre guillemets avant, avec tes missions d'avant, pour avoir de l'argent?
Alors j'ai oublié de parler de ça.
Comment
c'était? C'est très important. J'ai effectivement carburé entre août et novembre, où j'ai pris en gros toutes les missions qu'on me proposait.
Ok.
Donc d'où TV5 aussi.
Ouais.
Enfin bon, après, au-delà d'être intéressant, c'était quand même assez challenge, et puis c'était plutôt pas trop mal payé, donc. Voilà, j'ai pris un peu le maximum de missions, et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup bossé avant d'être trop fatiguée, dans une logique de me constituer
une espèce de matelas de sécurité,
ouais,
quoi.
Parce que j'avais le congé mat, mais mon congé mat, c'est pas non plus énorme.
Et t'as fait le chômage aussi?
Ah bah non, tu peux pas cumuler.
Ah oui, du coup, ok.
Mais bon, après le congé mat, t'as le chômage,
ouais,
qui peut prendre le relais. Donc, effectivement, c'est pas hyper confortable, mais c'est quand même génial d'avoir ça, quoi.
Oui, c'est mieux que rien, quoi.
Voilà. Puis, tu peux aussi décider de vivre... De toute façon, tu sors pas.
Oui.
Enfin, je veux dire, finalement, quand t'as un bébé, bon, il y a des frais, mais bon, tu t'arrêtes les sorties, les restos,
pendant
un petit temps, tout est un peu entre parenthèses.
Il y a certains frais qui apparaissent et d'autres qui prennent moins de place.
Donc, finalement, on peut s'adapter, puis tu t'adaptes toujours en fonction du budget que t'as, surtout quand tu sais que c'est provisoire. Voilà, donc financièrement, je me souviens pas qu'on ait spécialement souffert, mais oui, on faisait un peu attention, quoi.
Ouais, et puis c'est intéressant, je pense, d'avoir consciemment, de t'être consciemment dit, genre, je crée une enveloppe nécessaire à ça, parce que je pense que pris par nos activités d'indépendants et dans le rythme des choses, on peut oublier d'anticiper certaines choses.
Exactement.
Enfin, le temps passe très vite, finalement, quand on est dans le fait de gérer son activité au quotidien. Du coup, je me dis, c'est un truc où on peut arriver très vite à, genre, 2-3 mois du moment où on doit s'arrêter, et se dire, ah merde, j'ai rien mis de côté. Encore une fois, c'est un peu un sujet du moment, la gestion de l'argent. Pour moi, je suis en train de vraiment remettre le focus là-dessus. Je lis des bouquins, j'ai vraiment envie d'avancer sur ce sujet. Du coup, je commence à voir aussi les mécanismes qu'on a et qu'on n'a pas sur ça. Et je pense que ça peut arriver très facilement à beaucoup de gens de pas prévoir ces enveloppes budgétaires-là sur le temps en fonction de ce qui va arriver. Donc,
Ça, pour moi, c'est, je dirais, un des premiers conseils que je pourrais donner.
Ouais.
Mais dans la grossesse, et pas que d'ailleurs.
Ouais, dans tout.
Quand t'es freelance, je considère qu'il faut Enfin, si tu veux être un peu zen, il vaut mieux avoir une petite trésor. Mais d'autant plus dans cette situation où tu peux pas vraiment prévoir la durée de ton immobilisation, entre guillemets. Parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant, mais il y a aussi l'après. Alors, en fonction de comment ça se passe, tu peux avoir aussi envie de t'arrêter un petit peu plus longtemps. Tu peux avoir envie de profiter de ce moment un peu privilégié avec ton enfant. Et ça, ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes, elles ont envie de retravailler au bout d'un mois, et d'autres, elles ont envie de prendre 6 mois. Donc,
Ouais, et puis je pense que c'est intéressant aussi sur ce que tu disais, où toi, tu sors en coworking. J'imagine qu'il y a des personnes qui écoutent, qui se diront, bah non, en fait, moi, j'ai envie de rester à la maison, du coup, tu vois.
Oui. Bah, c'est un vrai choix. Après, travailler dans un endroit où il y a ton enfant,
c'est dur de travailler.
C'est très compliqué.
C'est ça le. Est-ce que tu as testé et du coup tu as pris ce choix par derrière ou...
Alors j'étais déjà en coworking avant et puis pour moi l'environnement social ça joue beaucoup sur ma concentration, mon envie d'aller bosser. Ouais. Donc travailler de chez moi ça n'a jamais trop été mon truc. Je l'ai fait beaucoup mais pas spécialement par choix. Bosser avec mon enfant à côté, déjà j'ai envie d'être avec lui, je culpabilise un peu de ne pas être avec lui, d'être avec elle. Puis ça fait du bruit, quoi. Puis je vis pas dans 100 mètres carrés, donc...
Ouais. Donc forcément, t'es moins dans ton travail, voilà. Et en même temps, j'imagine que si t'es moins dans ton travail, les moments où t'es avec ton enfant, t'es encore un peu dans le travail. Et
exactement.
Cette scission-là, elle est intéressante parce que du coup, t'es soit à 100% présent pour l'un, soit à 100% présent pour elle, quoi.
Voilà, mais moi, j'ai toujours fait un choix de scinder... Deux, quand je suis avec elle, j'ouvre pas mon ordi, je regarde pas mes mails, parce que j'ai du mal à faire les deux.
C'est bien, du coup, effectivement, parce que je pense que ça doit venir du fait que t'es ce rythme-là, comme, entre guillemets, quelqu'un qui est au salarié, au final, qui sort travailler, et qui revient, et qui coupe le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens...
Tous les salariés font pas ça.
Tous les salariés font pas ça, c'est vrai. Ils ramènent le travail aussi.
Ouais, beaucoup. Mais finalement, être freelance, ça m'a aussi... appris vraiment à compartimenter et à développer une efficacité. Je sais que j'ai 2 jours pour travailler ou 3 jours. Faut que la to-do elle soit faite.
Ces 3 jours, ils sont pleins, quoi.
Et comme les journées sont plus à rallonge comme avant.
Ouais.
Là, je vois, hein, je travaille beaucoup avec des gens qui n'ont pas d'enfants au bureau. Il n'y a que des gens qui sont sans enfants. Bah, ils peuvent se permettre de faire des pauses, pas forcément faire des pauses, mais en tout cas, de laisser un peu s'étendre la journée, puisqu'ils peuvent être au boulot jusqu'à 20h.
Ouais.
Moi, à 17h45, je suis partie.
Ouais. Du coup, c'est peut-être presque une motivation supplémentaire d'être ultra efficace. Exactement. Sur les horaires de travail.
Ouais. Et finalement, c'est pas mal.
Ouais, c'est intéressant, ça.
Ouais.
Du coup, même aujourd'hui, là, tu dis des fois, t'as 3 journées. Aujourd'hui, tu travailles encore pas sur les journées, des semaines complètes.
Alors,
comment tu t'organises aujourd'hui?
Alors, depuis la rentrée, je suis à plein temps.
Ok.
Depuis là, cette rentrée, donc
septembre là.
Septembre.
Ou... Ok.
Mais toute l'année dernière, donc sur la première année de ma fille, j'étais au 4/5e.
Ok.
Et on partageait un jour par semaine avec mon mari pour garder notre fille. Donc, on avait une journée pleine avec elle.
Ouais. Tous les deux?
Non.
Ah non, chacun son tour.
Soit chacun son tour, soit un le matin, soit l'après-midi, et on faisait en fonction un petit peu de notre charge de travail.
Ouais.
Ça pouvait m'arriver de la garder plus parce que lui, il avait plus de boulot, ou l'inverse.
Ouais, parce qu'il y avait cette flexibilité.
Voilà,
quoi.
On essayait de que ça soit juste, mais de manière à pouvoir passer du temps avec elle, parce que ça passe vite. Et, et finalement, quand t'es freelance, t'as cette chance de pouvoir passer plus de temps avec ton enfant. Et je le vois par rapport à des mamans qui sont salariées. Il y a une frustration que je n'ai pas de ne pas, enfin, d'avoir eu l'impression de passer à côté, parce que ça passe tellement vite que.
Parce que là, du coup, elle a 1 an et demi,
là,
presque 2.
Elle a 2 ans.
Ouais.
Et donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir profité.
Trop bien.
D'elle petite.
C'est vrai que. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « je suis freelance, être mère, ça fait peur ». Votre père aussi, d'ailleurs, hein, ça fait peur. Est-ce que c'est stable? Enfin bref, toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'indépendance, que d'ailleurs beaucoup de gens qui ne sont pas indépendants ont sur l'indépendance, et moins les freelances qui l'ont sur eux-mêmes. Mais je me dis effectivement, moi, ce que je vénère dans cette manière de vivre et de travailler, et ce pourquoi j'ai vraiment énormément de gratitude, c'est s'il y a quelque chose qui est important pour moi, je peux m'organiser et changer les briques de ma vie pour donner de la place à ça. que ce soit un projet, une idée, des vacances, passer du temps avec telle ou telle personne, lancer un nouveau truc, ou du coup passer du temps avec, avec ton enfant, ben, tu peux t'organiser pour ça, quoi. Et c'est juste une question de qu'est-ce que je fais pour pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre.
C'est ça. Et sans avoir à demander l'autorisation à quelqu'un, quoi.
Ouais.
Et ça, ça n'a pas de prix, quoi.
C'est clair.
Ça n'a pas de prix.
Du coup, qu'est-ce que... On va faire un petit exercice. Si, si tu te retrouvais de nouveau à janvier 2018, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans la manière dont tu as vécu ces deux années presque avec ta fille? Est-ce que tu t'organiserais mieux d'une certaine manière? C'est quoi les espèces de conseils que tu te ferais à toi-même ou que tu te donnerais à quelqu'un qui va accoucher bientôt?
Bah alors, je suis pas parfaite, hein, mais je crois pas que je reverrai beaucoup de choses dans le parcours parce que je trouve que ça s'est fait naturellement. Mais en tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est de pas se juger et de pas culpabiliser de pas travailler parce que tu passes du temps avec ton enfant. Parce que ça peut être difficile à vivre, surtout quand t'es freelance et que le compteur tourne, ouais. Les charges arrivent.
Les clients rentrent pas forcément.
Voilà, les clients, t'es obligé de leur dire non parce que voilà, tu fais des choix. Et alors, encore une fois, quand on peut se le permettre, je pense que il faut pas culpabiliser de faire ce choix-là,
ouais.
Qui pour moi est un choix. Enfin, c'est une chance de pouvoir le faire. Et on a de la chance d'être quand même en France, on est quand même super protégé, faut pas l'oublier. Et que le statut de freelance, il est précaire pour plein de raisons, mais il est aussi de plus en plus
ouais.
Protégé. Enfin, je veux dire, ça, les choses évoluent. Et donc, voilà, le conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas avoir peur d'assumer cette envie.
Ouais, et donc de moins travailler.
Et donc de moins travailler. Mais peut-être de mieux travailler, finalement. C'est-à-dire que par le temps compressé, il y a une notion d'efficacité. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Et oui, j'aurais envie de dire qu'en janvier 2018, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me dise « Ah, tu pourrais t'organiser comme ça pour... »
Pour mieux travailler.
Voilà, pour mieux travailler.
Ouais, j'aime bien, dans la productivité, il y a une idée qui dit que peu importe le temps que tu as pour une tâche, tu la feras et tu seras obligé de la faire.
Ouais.
Et du coup, des fois, quand on a beaucoup trop de temps, on va remplir ce temps avec la tâche, alors que, comme tu dis là, s'il y a 17h45, faut que je parte et que tout soit fini, ce sera tout fini à 17h45.
Exactement.
J'imagine qu'il y a une limite à cette règle-là, parce qu'effectivement, si on veut mettre une semaine de travail en une journée, forcément, ça passe plus. Mais je me dis, effectivement, c'est une bonne opportunité pour se dire, OK, maintenant, j'ai plus le choix, parce que c'est important pour moi de passer du temps avec mon enfant, j'apprends à mieux travailler et à être plus efficace.
Ouais, c'est ça. Et puis ça t'empêche pas de développer son activité avec le temps que tu as. Et je veux dire, ce petit manque d'activité, enfin l'émission que tu vas éventuellement rater, tu vas les oublier. En 6 mois, 1 an, t'auras oublié. Alors ouais. Que le temps que t'as pas passé avec ton enfant,
ça tu l'oublieras pas.
Tu l'oublieras pas. Et c'est pour ça que je dis. On n'est pas trop dans une société qui nous pousse à assumer ce besoin d'accomplissement, d'accompagner ton enfant, d'être là. Donc il y a forcément des gens qui peuvent éventuellement te juger, tout ça, mais et encore de moins en moins, parce que en tout cas moi je m'entoure pas de ces personnes-là.
Ouais.
Ouais, il faut vraiment assumer.
Je pense
cette
que.
Envie, je pense.
En plus en étant. Entrepreneur, indépendant, freelance, il y a une grosse charge croyance sur comment on doit mener son activité qui dirait des choses du style « c'est difficile, faut beaucoup travailler, faut te donner à fond si tu veux que ça marche, etc. » Ce qui fait qu'effectivement, tu peux ressentir une énorme culpabilité le jour où tu travailles moins, où tu te pousses moins. Je pense que c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Même moi, j'ai encore... beaucoup, ça. J'ai l'impression que quand je bosse pas, c'est que je passe à côté d'opportunités. Et c'est vraiment un travail à faire sur ses croyances et son état d'esprit, en fait. Et je pense qu'effectivement, le jour où t'as des choses qui sont beaucoup plus importantes pour toi, et encore une fois, c'est une question de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et où est-ce que je mets mon temps, mes ressources, mon énergie. Et je pense que quand t'arrives à ce moment-là et que forcément ton enfant prend énormément de place dans qu'est-ce qui est important pour moi, si tu te flagelles parce que tu travailles pas, ça va être dur.
Bah oui, c'est ça. Et puis au final, tu gagnes aussi en confiance et en reconnaissance en te disant que tu es capable de travailler et de t'occuper de ton enfant en même temps et ouais. de passer du temps avec lui. Il y a une vraie satisfaction de pouvoir, de temps en temps, me dire bah, « il est 16h, j'ai fini ce que j'avais à faire, je vais aller chercher ma ouais. fille à la nounou. »
Plutôt que de réinventer des choses, quoi.
Bah ouais.
Parce qu'en vrai,
donc, voilà, c'est pas, et je ne l'aime pas pour autant. Ouais. Je travaille beaucoup par ailleurs, mais en tout cas, on a cette possibilité-là. Donc voilà, et finalement, cette organisation, toutes ces questions que je me suis posées autour de la productivité, ça m'a amené à réfléchir à la genèse de Loukoum, qui en fait a été aussi guidée par ça. Puisque quand j'étais en congé, ou même avant, je me suis posé la question de savoir à qui j'allais pouvoir confier mes projets.
Ouais.
Bon, ça c'est pas... Finalement, j'ai décidé de tout arrêter et de tout mettre en pause.
Mais ça aurait pu être
un axe. J'aurais bien aimé pouvoir garder certains clients.
Et leur dire, bah, quelqu'un d'autre va s'occuper de vous pendant que je suis pas là.
Voilà. Voilà. Et donc, ça a été un peu la genèse
du collectif.
Du collectif, c'était de me dire, il faut pouvoir s'unir, se regrouper pour compter les uns sur les autres.
Ouais.
Voilà, et puis il y aura peut-être un deuxième enfant aussi, et donc ouais. voilà, je réfléchissais vraiment à ça.
Ouais, c'est cool,
et Leïla, Marie et moi, on s'est vraiment retrouvés par rapport à ça aussi, parce que c'était une vraie question de femme qu'on avait, de femme indépendante, de se dire comment on fait, quoi.
Ouais, parce que du coup, Marie, elle attend un enfant, je crois.
Marie, elle est enceinte là, ouais. elle accouche en janvier.
Ah oui,
donc,
janvier en plus,
janvier,
encore.
deux ans après.
Du coup, les réflexions sont les mêmes, j'imagine.
Évidemment. Mais elle doit avoir, j'imagine, des inquiétudes. Elle partage avec nous. Mais bon, l'avantage, c'est qu'elle peut échanger aussi avec moi. Il y a ouais. déjà une première expérience. Et puis, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, elle sait qu'elle peut compter sur nous. Que,
ouais. si puis rien besoin, que d'être entourée par des personnes qui ont les mêmes questions... inquiétude, réflexion, juste discuter, j'imagine que ça doit faire toute la différence, quoi. Parce que toi, du coup, au moment où t'es enceinte, est-ce que t'as des gens qui sont autour de toi, des femmes indépendantes, freelance aussi, avec qui tu discutes de tout ça, ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout.
Ouais. Et du coup, j'imagine que, tu vois, c'est une autre question qui revient souvent avec les freelances, c'est genre la solitude, c'est... j'ai l'impression que personne comprend mon mode de vie, d'autant plus si dans leur famille, il n'y a personne qui est freelance ou indépendant. Ben, j'imagine que quand tu es enceinte en plus, ça doit être d'autant plus fort de se dire ben, « je suis la seule personne dans mon entourage à devoir me poser ce genre de questions
». Oui, alors j'avais pas énormément de contacts, même d'amis qui cumulaient un petit peu les deux. Mmh. En revanche, j'avais pas mal de freelance déjà par an.
Okay.
Donc ça m'a aidé.
Ah oui, déjà parents, ok, ouais. Cool.
Ça m'a aidé, notamment au coworking, j'ai échangé avec pas mal de.
Donc c'est à eux que tu posais les questions quand
ouais.
tu avais des questions.
Et qui étaient hyper rassurants qui m'ont aidé à me projeter et à me sécuriser sur certaines questions que je me posais.
Ouais. Si tu. Du coup, tu dis projeter, c'était la prochaine question, donc ça fait le petit lien. Si tu te projettes, du coup, aujourd'hui, sur les prochaines années de. T'as dit peut-être un deuxième enfant, mais on va pas rentrer dans cette discussion-là, mais tu te dis, le futur pour toi, en tant que freelance parent, ça ressemble à quoi, du coup? Comment est-ce que t'aimerais avancer et gérer ton temps? Est-ce qu'il y a des réflexions que t'as déjà menées sur ça? Donc, genre, dans l'idéal, comment tu fais pour cumuler les... Enfin, jouer entre vie de famille et vie pro? T'as des réflexions là-dessus ou pas?
Alors... pas tellement, je me suis pas encore trop projetée, mais j'imagine pas vraiment le futur différemment d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux continuer à rester freelance aussi pour ça, pour continuer à pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, les emmener à leur activité quand c'est nécessaire. J'envisage en fait d'avoir toujours cette flexibilité-là. Et de pouvoir passer du temps avec eux, mais j'ai pas un plan. En tout cas, ce que je sais et ce qui est hyper satisfaisant, c'est de me dire que grâce à la vie que j'ai aujourd'hui, qui est quand même bien installée, plus le collectif, j'ai la possibilité d'adapter et de faire évoluer aussi mon emploi du temps. C'est-à-dire que si demain j'ai un deuxième, ou même, je sais pas, hein, si ma fille elle a besoin de plus de temps, je ne sais pas pour quelle raison, c'est possible.
Ouais.
Tu vois.
C'est juste une question d'organisation, quoi.
Voilà. Et ça, je trouve que ouais, ça a vraiment pas de prix, quoi. Tu vois, c'est comme quand sans enfant. Moi, je dis souvent quand t'es freelance, tu sais que voilà, aujourd'hui, t'as pas envie de travailler ou t'as pas la tête au travail, tu peux aller te faire un ciné. C'est possible.
Ouais.
Alors, on le fait rarement parce que toujours on culpabilise un peu de passer du temps, machin. Mais n'empêche que c'est possible. Et ouais. Personne ne va jamais
venir te dire. Dire
voilà.
Qu'est-ce que tu fais au ciné là ?
Voilà. Et tu ne le fais pas forcément. Donc, moi, ça m'arrive de le faire, très clairement. Mais le simple fait de savoir que tu peux le faire, je trouve que c'est une source d'épanouissement énorme, quoi.
Puis ce que je me dis là, c'est en fait la réflexion que j'ai, c'est en fait les vacances scolaires, au final, si tes enfants vont à l'école ou quand ils iront à l'école, tu pars à toutes les vacances scolaires parce que tu peux travailler de n'importe où au final aussi, si tu t'organises pour ça.
Alors oui, bon, travailler avec les enfants, je pense que c'est une...
C'est une autre aventure.
C'est une autre aventure. Mais effectivement, tu vois, maintenant que tu m'en parles, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que quand je vais être dépendant des vacances scolaires, et les vacances scolaires sont nombreuses quand même, il va falloir trouver des activités. Mais c'est vrai que être freelance, ça peut être un super...
C'est intéressant.
Ça peut être très bien parce qu'on peut partir tous ensemble et puis s'organiser avec mon mari pour l'un travailler le matin,
l'autre l'après-midi.
Parce
que encore une fois, il y a cette opportunité de vous être tous les deux indépendants.
Exactement.
Quoi. C'est cool.
Voilà.
Ta vision de long terme, elle est sur Paris ?
Elle est sur Paris.
Ouais.
Ouais.
Ok. Intéressant aussi.
Il n'y a pas de projet de départ.
Hein. Ok.
On aime trop Paris.
C'est vrai qu'on s'y attache vite. Si est-ce qu'il y a d'autres choses que, tu vois, j'essaie de me projeter et de me dire, on va prendre deux petits exemples. Je suis une femme et je suis enceinte et je suis freelance. À part les choses qu'on a traitées déjà, qui sont constituer l'enveloppe, commencer à se poser la question de comment est-ce que je peux assurer la transition des missions, peut-être avec d'autres gens ou avec un collectif et s'entourer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire à cette personne-là qui se questionne, des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à cette époque?
J'aurais tendance à dire que il ne faut pas mettre la barre trop haut. Et il faut vraiment, tout en étant prévoyant sur la partie financière, en tout cas, le vivre comme un moment... comme un moment un peu une parenthèse et ne pas essayer de pas s'en faire une montagne parce qu'au final moi je me suis rendu compte en le faisant et quand même dans des conditions qui étaient pas forcément c'était pas forcément optimal, tu vois, c'était un peu imprévu, je me lançais et ben au final ça s'est hyper bien passé et même si j'ai pas forcément eu un chiffre d'affaires d'enfer dès le départ, n'empêche que j'ai toujours mieux gagné qu'en étant salarié, ce qui est quand même
déjà
super.
Ouais.
voilà. Et puis de pas être trop dans l'anticipation. Je dirais que c'est un bon conseil parce que moi je l'ai été évidemment, hein, comme toutes les femmes un peu stressées par ça. De trop projeter des choses négatives et de se dire que ça va aller et que finalement si tu anticipes et que tu t'organises ça va le faire, quoi.
Ouais.
Voilà, mais c'est vrai que ça fait peur et que mais finalement moi je trouve que ça fait moins peur que d'envisager la grossesse en tant que salarié. Alors évidemment j'ai pas fait toutes les boîtes de Paris et de France, et il y a peut-être des boîtes hyper bienveillantes par rapport à ça, mais clairement il y a quand même beaucoup de progrès à faire par rapport à ça, et que ce soit sur la grossesse, l'accouchement et le post-accouchement et la vie de maman en entreprise, c'est quand même difficile, quoi. C'est une vraie problématique aujourd'hui, je trouve. Et même si on a un manager qui est parent, c'est pas forcément une garantie. Donc, encore une fois, je ne généralise pas.
Clairement. Et puis, de toute façon, comme il y a des milliards de manières d'être freelance, il y a des milliards de manières d'être maman, j'imagine. Donc, que ton manager ait un enfant ou pas, ça veut pas dire que vous avez la même manière d'être maman, quoi.
Ça veut rien dire. Mais en tout cas, j'ai envie de dire aux mamans qui ont envie de se projeter sur un projet d'enfant en étant freelance, la vie est plus douce. La vie de maman est plus douce en freelance. Donc, c'est ma vision, hein. Ça a peut-être été difficile pour certaines personnes, mais je trouve qu'on a beaucoup plus de clés pour la rendre plus douce. En tout cas, on est le maître à bord. Et donc, à partir du moment où t'es le maître à bord...
À toi de faire ce que t'as envie de faire. Quoi.
Exactement.
Et de t'organiser pour.
Ouais.
Trop bien. J'ai une autre question, on va rentrer dans les questions rituelles de fin de podcast, et je vais l'orienter un peu plus que je l'oriente d'habitude. Est-ce que tu peux nous raconter... la question en général, c'est ta plus grosse galère en indépendante. Mais du coup, je veux bien savoir... soit dans ta grossesse ou dans les 2 ans qui s'en suivent, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un truc vraiment difficile dans ta vie d'indépendante par rapport au fait d'être maman ou au fait d'être enceinte ?
Alors oui, il y a eu 2 expériences qui ont été particulièrement difficiles au tout début. Donc je cumulais l'inexpérience du débutant et puis aussi un certain manque de savoir-faire en tant qu'indépendant, donc je pense que ça a dû jouer, et le fait d'être enceinte. Donc j'ai été, j'ai eu 2 expériences vraiment mauvaises, l'une en agence et l'autre avec un client en direct, j'ai vraiment ressenti des a priori misogynes à mon égard, mais alors misogynes, je sais pas comment on dit misogynes envers les femmes enceintes. C'est encore un niveau au-dessus.
Oui, c'est genre une sous-catégorie ou,
ouais.
Et ou une surcatégorie.
Et c'était curieux parce que c'était de la part d'un homme et de la part d'une femme. C'est 2 cas différents.
Ah.
Donc il y a eu évidemment un homme qui m'a clairement très mal parlé, qui voulait plus me payer. Enfin, il a été vraiment, vraiment mauvais.
Parce que t'étais enceinte ?
Alors, non. Parce qu'il n'était pas satisfait du travail, et il avait, mais il l'a dit, enfin, en fait, il l'a amené d'une manière vraiment pas constructive. On a tous le droit de ne pas être content d'un travail, et en général, quand ça arrive, parce que ça peut arriver, on se remet en question, puis on essaye de redresser le tir, de retravailler. Ouais. Mais là, c'était un peu une attaque frontale du mec qui ne voulait plus payer, parce qu'il avait décidé que c'était... qu'il avait plus besoin du service, et que voilà, et il s'est servi
du fait que
j'étais enceinte, et ça a été dur parce que parce que c'était hyper blessant, quoi. Non seulement t'es quand même dans une situation qui est pas facile, et en plus il se sert de ça pour te dévaloriser, pour te rabaisser. Donc ça, ouais, j'ai assez mal vécu. Ça m'a laissé un peu des traces. Bon, au final, je m'en suis bien sortie, et puis je suis sortie de la tête haute de cette histoire. Mais ça a été violent, quoi. Super violent. Pour des raisons différentes, j'ai bossé avec une agence où le projet était super mal cadré, enfin, c'était hyper stressant pour moi, elle m'appelait 3 fois par jour, puis la nana était vraiment pas agréable, pas bienveillante, c'était vraiment pénible, quoi.
Ouais.
Et pareil, j'ai eu 2-3 réflexions.
Parce que t'étais enceinte là aussi à l'époque.
Ouais. Et c'était pas direct,
mais ça sous-entendait.
Ça sous-entendait.
Tu le sentais surtout, quoi.
Ah ouais. Okay. Donc voilà, bon, ça m'a permis de aussi avoir une vraie réflexion sur comment je sélectionne les gens avec qui je travaille. Et d'arriver à parce que les 2, hein, c'est des gens que j'avais senti dès le départ, je savais que ça allait être des gens difficiles à gérer.
Mais t'avais pas dit non.
J'avais pas dit non parce que j'étais dans ma logique d'écureuil et qu'il fallait que je fasse rentrer des trucs. Et donc coûte que coûte, j'y suis allée. J'ai laissé quelques plumes, mais heureusement, ça m'est pas réarrivé.
C'est intéressant, effectivement, je trouve ça cool, encore une fois, dans cette réflexion de comment je prends les bonnes nouvelles de cette situation et je m'en sors, et c'est cool que tu te dises après, ok, comment j'utilise ces expériences-là pour me dire, quand je sens les trucs, je prends plus, Surtout maintenant que t'es plus dans cette logique d'écureuil. Ouais. Je trouve ça marrant que tu t'es dit cette image-là. Mais c'est bien. Enfin, je trouve ça génial que t'aies cette réflexion de « Ok, je rebondis, et c'est quoi la bonne nouvelle dans ça ?»
Ouais, c'est ça.
Et je pense que ça, c'est un vrai muscle qu'il faut qu'on développe tous en tant qu'indépendant. C'est quand il se passe une mauvaise situation... Et je pose cette question à tous les invités du podcast, donc on en a listé plein maintenant depuis tous les épisodes qui sont sortis. Mais c'est cool de se dire, ok, comment je prends ça? Et c'est quoi le cadeau qu'il y a derrière, en fait? Et
exactement.
Ça, je pense, c'est vraiment une réflexion qu'il faut nourrir de plus en plus sur n'importe quelle situation qui nous arrive. La prochaine question rituelle, du coup, c'est... tout à l'heure, je t'ai un peu fait faire l'exercice, t'étais face à ton toit enceinte, c'était quoi le conseil que tu donnerais? Là, si t'es face à... Louise qui quitte l'agence, donc en fait t'es déjà enceinte de toute façon, mais tu quittes l'agence, c'est ton premier jour d'indépendante, et du coup plus sur un conseil sur ta carrière de freelance, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ta toi plus jeune qui se lance?
Ce serait un peu pour rebondir sur ce que je viens de dire, en fait, ce serait, je pourrais faire le lien, ce serait de développer des armes pour bien choisir les gens avec qui je travaille. Et ça, bon, après, c'est facile à dire, parce que quand on se lance, on n'a pas forcément le loisir de choisir avec qui tu travailles, ni les projets. Mais ça conditionne quand même énormément le plan de... Enfin, ton bien-être dans cette voie-là, c'est d'arriver à savoir flairer les gens, les projets qui vont t'apporter satisfaction. Et je crois malheureusement que c'est assez difficile de prévoir ça. C'est-à-dire que moi, en août 2017, j'étais pas capable de flairer quoi que ce soit. Et il a fallu que je me casse les dents, que je prenne des projets un peu foireux.
Pour apprendre qu'est-ce qui te correspondait, en fait.
Oui, voilà.
Ouais, je pense que c'est... Moi, il y a quelque chose... Effectivement, je défends énormément cette vision-là de se dire, OK, c'est qui, dans l'idéal, les clients avec qui j'ai envie de travailler, les missions, à quoi je contribue en faisant ça, etc. Bien sûr, il y a une part d'expérience qui rentre là-dedans, que tu affines au fur et à mesure. Mais je pense que la vraie importance de se définir dès le début ce cap-là, c'est qu'en fait, tu vas naviguer et t'attirer d'autres opportunités. C'est un peu comme dans le coaching, on parle beaucoup de l'importance des objectifs. Si t'as pas d'objectif, tu prends un peu tout ce qui vient à droite à gauche, et du coup c'est possible que tu tournes en rond. Enfin bref, t'as pas de direction définie. Et c'est pareil pour moi, quand tu définis pas dans l'idéal qui sont les gens avec qui j'ai envie de travailler, les missions sur lesquelles j'ai envie de travailler, ben tu vas repérer des opportunités un peu partout qui n'ont peut-être pas de cohérence, qui n'ont peut-être pas de sens pour toi. Et du coup, tu peux te retrouver beaucoup plus facilement à travailler sur des missions qui te correspondent pas ou avec des gens qui te correspondent pas. Et rien que le fait de définir ça, même si au début bien sûr comme tu dis, tu peux pas te dire, ok, non, ça correspond pas, je prends pas, ça prend pas, et au final, t'as rien. Forcément, au début, t'as des besoins de commencer à faire tourner ta boîte, donc tu prends plus de choses, mais tu affines au fur et à mesure parce que t'as déjà le cap. Ça, je pense, c'est vraiment important.
Oui, et j'ajouterais une chose que j'avais pas forcément en tête dès le départ. C'est, pour moi, un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est... même si la mission se passe pas exactement comme tu l'as décidé, ne pars jamais fâché. Et essaye de laisser toujours une impression
positive.
Positive. Même si ça s'est super mal passé, essaye de finir sur une note de compromis, de montrer que tu reconnais des erreurs, tes erreurs, parce que voilà, on fait tous des erreurs.
On en fait tous.
Ça, c'est hyper important, parce que aujourd'hui, la raison pour laquelle ça fonctionne bien pour moi aujourd'hui, c'est 98% de réseau et de bouche à oreille.
Ouais, donc des clients satisfaits qui recommandent.
Ouais. Et ou des gens avec qui je travaille. Et, donc, et ça, je l'avais compris quand même relativement dès le départ, mais je pouvais quand même me laisser un peu fâchée sur des projets qui se passaient pas comme je voulais. Je trouve que il faut arriver à développer sa flexibilité, son adaptabilité. C'est beaucoup, 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 beaucoup de diplomatie.
Être un bon politicien en tant que freelance.
Ouais.
Ouais, c'est important, je suis d'accord. Parce que, au final, c'est ça aussi qui va apporter des relations plus enthousiaste, bienveillante, profonde avec nos clients aussi. Si nous, déjà, on n'est pas capable de jouer le rôle de tout mettre en place pour que ça se passe bien, ben forcément, on peut pas... Enfin, moi, je préfère prendre la responsabilité de ça et pas attendre que mon client le fasse.
Ouais.
Et si nous, on prend la responsabilité d'au moins faire des pas dans ce sens-là, ben forcément, c'est plus facile, je pense.
Ouais, c'est ça. Et puis, parce qu'après, la mauvaise impression, elle reste, et puis c'est...
Ça a un impact long terme.
Ouais, et
on puis pense c'est... en général, ouais, c'est bon, c'est un client, je le laisse de côté, mais sur le long terme, ça peut avoir un impact.
Ouais, puis tout ça, c'est tout le monde se connaît, hein, quand même. Donc...
Le monde est petit. L'autre question, c'est si t'as une question à poser à nos auditeurs pour que cette semaine ils réfléchissent à leur activité, leur mode de vie, enfin bref, tout ce qui va autour de leur activité de freelance, ce serait quoi la question que t'as envie de leur poser? Ça peut être par rapport à la discussion ou tout à fait autre chose.
Bah, j'aurais envie de poser une question par rapport à... C'est un peu basique, mais pour moi, c'est hyper important parce que ça guide vraiment le choix que j'ai fait en étant freelance. C'est quoi les bons paramètres à régler pour être heureux dans cette vie de freelance? C'est quoi qui, aujourd'hui, te rend heureux dans ce choix-là? Et je pense que ça dépend de...
Ça change pour tout le monde.
En fonction des gens. Mais en tout cas, c'est important de les connaître, ces paramètres. Et de s'en rendre compte tous les jours d'embrasser un peu ce choix même s'il est difficile parfois parce que certes il y a des contraintes mais je sais que moi, peut-être pas tous les jours mais en tout cas très régulièrement je me le dis à moi puis je le dis aussi à mon mari, je me dis mais quelle vie de... on a quand même une vie cool quoi. On vit notre vie et on kiffe quoi. Et en fait, prendre conscience de ça, ça rend heureux quoi.
Ouais.
Voilà.
Je suis entièrement d'accord. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est on peut construire une activité de freelance de plein de différentes manières. On a plein d'opportunités, on a plein de directions qu'on peut prendre. Et si on ne sait pas pour nous qu'est-ce qui est important comme paramètre à cocher, ou imaginons que c'était une checklist de pour une vie de freelance épanouie pour moi, voilà ce qu'il me faut, pouf, 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 pouf. Et si on n'a pas la clarté sur ça, ben on pourrait construire une activité qui ne nous ressemble pas du tout.
Exactement.
Un exemple tout con que je prends tout le temps, c'est si ta vision pour ta vie de freelance, c'est de déménager à la campagne ou de vivre ailleurs, ça ne fait aucun sens que tu commences à vendre du présentiel à tes clients. Si tu habites à Paris, par exemple, et que ton rêve, c'est de déménager à la campagne, si tu vends du présentiel et qu'on te connaît pour ça, ben tu t'enfermes, en fait.
Mm-hmm.
Donc, si tu sais déjà que c'est ça, ta vision, ben commence à vendre autre chose pour que tu te permettes petit à petit d'aller vers ça. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indépendants qui ne le font jamais.
Non, non.
Ouais. Et qui se posent jamais cette question.
Bah, ça rejoint ce que je disais, hein, par les paramètres, il y a une vision.
Mm.
Et c'est les paramètres définissent la vision de la vie que tu veux avoir. Et en fonction, effectivement, tu construis ton plan de carrière,
ouais, voilà.
Tu fais tes choix, quoi.
Trop bien. S'il y a des gens qui veulent venir discuter avec toi de la parentalité, du fait d'être maman freelance, où est-ce qu'ils peuvent venir échanger avec toi? C'est où le meilleur endroit pour te contacter ou suivre ce que tu fais?
Alors, ils peuvent me contacter sur LinkedIn.
Ok. Je mettrai de toute façon tous les liens en description.
Je répondrai avec plaisir, même pour boire un café. Je l'ai déjà fait pas mal de fois. Parce que j'avais déjà fait un petit podcast sur le sujet
Maman freelance.
Avec Dominique Dufour, ouais,
oui.
Qui avait fait on avait fait un sujet à peu près équivalent, mais c'est intéressant parce que c'était pas au même stade, donc on n'avait pas vécu les mêmes choses.
On voit l'évolution du coup.
Voilà. suite à ce podcast, j'avais eu pas mal de questions de futures mamans ou de femmes qui voulaient se lancer en tant que freelance. Donc vraiment, n'hésitez pas. À me contacter.
Très bien. Mais je mettrai le lien vers ton LinkedIn en commentaire pour que les gens puissent aller voir ça. Un grand merci à toi pour cette discussion.
Mais
et elle se poursuit sur Instagram aussi pour les gens qui veulent continuer d'échanger sur ça. On m'avait souvent demandé, donc j'espère que les gens qui écoutent ici sont les personnes qui m'avaient demandé sur Instagram ou des nouvelles personnes qui se posent cette question. Merci Louise et à très vite sur le podcast du coup.
À bientôt.
Bye. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme je le disais dans l'introduction, effectivement, c'est un peu différent de ce à quoi je vous avais habitué avec des questionnements business, de réflexion sur notre unicité, notre marketing, et ainsi de suite. mais j'ai vraiment envie d'aller traiter de plus en plus de sujets de ce style, qui sont pas forcément toujours dans cette partie concrète, mais plutôt liés à notre mode de vie global quand on est indépendant, les questions qu'on se pose, l'impact d'autres parties de nos vies sur notre activité. Et du coup, j'aimerais savoir si vous avez des envies, des recommandations, des idées de choses que vous aimeriez entendre sur le podcast. C'est avec grand plaisir que je les récolterai pour la préparation de la saison 3 que je vais lancer début 2020, sachant que du coup, effectivement, on est bientôt à la fin de la saison 2. C'est passé très vite. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, mais j'ai envie d'ouvrir un peu le scope de ce dont on parle ici. Et du coup, pour ceux qui ont des recommandations, qui ont envie de partager, de me donner leur avis, ce serait vraiment avec plaisir de d'échanger avec vous. Et vous pouvez du coup m'envoyer ça par mail. Mon adresse, c'est hello@thomasburbidge.com. Ou également sur le compte Instagram du podcast. J'échange avec pas mal d'auditeurs là-dessus. Ou du coup, le compte Instagram, je le mettrai dans la description, mais c'est @young_wild_freelance. Je vais aussi y aller de plus en plus sur des sujets un peu plus sociétaux qui tournent autour de l'impact du freelancing de manière sociétale. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais c'est des choses qui sont en réflexion de mon côté. Voilà. Avant de partir, si c'est pas encore fait et que tu souhaites soutenir ce projet, soutenir le podcast pour que d'autres indépendantes puissent entendre notamment les conseils de Louise sur le fait d'être maman freelance, mais aussi tous les autres épisodes que j'ai partagés et que tu as peut-être écouté. Le mieux pour m'aider, c'est de mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi du coup de partager cet épisode autour de vous. Si tu connais des femmes indépendantes qui se posent ces questions-là ou qui peuvent potentiellement se les poser, envoie-leur cet épisode, je suis sûr que ça va vraiment les aider à se poser les bonnes questions et avancer avec ça. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye.